De retour en ondes, vous êtes toujours sur CIBL 101,5 FM Radio Montréal. Je suis Sylvie Cobo. D'habitude, c'est Entre les mots qui démarre à cette heure-ci, mais là, c'est une émission spéciale en direct du Festival du Monde Arabe sur l'esplanade de la Place des Arts. Il y a toute une médina qui est là, qui est en place avec des belles tentes, j'allais dire des tentes berbères. Non, ce ne sont pas des tentes berbères, ce sont des tentes en plastique, mais assez coquettes quand même. Nous sommes confortablement installés ici et je suis en présence de monsieur Ahmed Ben Saada. Bonjour monsieur Ben Saada. Pouvez-vous vous approcher un tout petit peu du micro?
Bonjour madame.
Vous allez bien?
Oui.
Je suis ravie de vous recevoir, je suis très honorée même de vous recevoir.
Merci.
J'ai lu certains des articles que vous avez publiés, mais avant je voudrais dire un petit peu qui vous êtes, corrigez-moi si je me trompe. Vous vivez à Montréal depuis de nombreuses années.
Oui, à peu près deux décennies.
Deux décennies, oui. Donc ça fait beaucoup plus longtemps que moi, vous êtes plus montréalais que moi finalement. Vous êtes docteur en physique.
Oui, de l'Université de Montréal.
De l'Université de Montréal. Voilà, il faut juste s'approcher un peu plus du micro. Docteur en physique de l'Université de Montréal. Vous êtes consultant en éducation?
Oui, j'œuvre comme consultant pour des maisons d'édition et aussi, j'œuvre aussi comme... J'ai déjà œuvré à l'Université de Montréal, puis à l'AUF, comme conseiller pédagogique aussi.
D'accord.
Pour l'enseignement des sciences.
Et vous êtes membre de l'équipe scientifique de concepteurs de sites éducatifs de CyberSchool.
CyberSchool, je fais partie de CyberSchool, qui est un grand consortium de sites web éducatifs. J'ai un site qui s'appelle Sciences Animées, qui est un site qui est dédié à la vulgarisation des sciences pour les jeunes du secondaire. Mm-hmm. Et à travers ça, on apprend aux jeunes d'utiliser les technologies de l'information et de la communication dans l'éthique, dans un cadre pédagogique pour pouvoir leur apprendre un peu, non seulement l'éthique, mais aussi la science, puis leur rendre la science plus attrayante, disons.
D'accord, donc vous êtes un scientifique. Hein?
Je suis un scientifique, disons, oui.
Un scientifique logique.
Exactement.
Pertinent, philosophe, un petit peu aussi.
Des fois, oui.
Hein?
Par la force des choses, on le devient, je pense, avec l'âge un peu.
Avec
aussi.
L'âge?
Oui.
Mais il faut avoir des dispositions un petit peu pour ça aussi.
Oui.
Alors, M. Ben Saada, vous avez publié des articles, j'en ai un sous les yeux, qui vient du quotidien d'Oran. Vous
oui.
êtes d'origine algérienne?
Alors, je suis d'origine algérienne, je suis d'origine d'Oran, et j'écris régulièrement des articles pour le plus grand quotidien de ma région, et un des plus grands quotidiens d'Algérie, qui est le quotidien d'Oran. C'est un quotidien de langue francophone qui est très, très lu et qui me permet de m'exprimer, si on veut voir comme ça.
Et vous vous exprimez sur la notion d'arabité?
Alors, je m'exprime souvent sur le domaine de l'éducation, parce que
oui.
c'est un domaine qui m'intéresse. Et j'aimerais faire profiter, en fait, mes concitoyens, mes amis algériens, les enseignants algériens, de nos connaissances ici, puis de notre facilité d'approche, et que c'est des nouvelles approches pédagogiques, etc.
Oui.
Et de temps en temps, j'écris des articles sur la société en général. Et je m'intéresse aussi au problème de la notion d'arabité, de la notion de l'islam vis-à-vis de l'Occident.
Parce que là, j'ai sous les yeux un article que j'ai trouvé vraiment très intéressant qui s'appelle « Grandeur et décadence de la notion d'arabité ». Et on sent une certaine colère chez vous.
C'est vrai parce que... La notion d'arabité est mal perçue, disons, en Occident, et c'est ça qui me remet un peu.
Oui, pour expliquer cette colère,
oui.
Vous commencez l'article en disant « Le monde est du côté de celui qui est debout ». Et vous écrivez également « Savez-vous, par exemple, que chacune des langues des pays scandinaves, suédois, danois, norvégiens, finnois, publie autant que la vingtaine des pays arabes réunis, ou qu'un Québécois francophone publie proportionnellement 30 fois plus de volume qu'un arabophone. Vous êtes quelqu'un qui revendiquait très fortement votre culture arabe. Vous avez envie je trouve pas mon mot. Vous avez simplement envie de dire à quel point cette culture est importante, qu'elle est parfois mal perçue,
mal interprétée. Il y a deux façons de voir le problème.
Ouais.
Il y a la façon de la victime, en fait, de trouver toujours une excuse à se victimiser, mais il y a aussi l'autre côté de la médaille, c'est que le monde arabe actuellement vit dans ce qu'on appelle un désert culturel, un
ouais.
désert scientifique, et une part des problèmes viennent de ce désert-là. Bien que ça n'excuse pas aussi l'autre côté aussi, que la discrimination dont fait l'objet les Arabes et les musulmans en général aussi. Donc il y a deux façons de voir les choses. Moi, je suis pour les voir les deux et être, comme vous avez dit tout à l'heure, scientifique, c'est d'essayer d'analyser les deux. Comment on peut concilier les deux? Non seulement redonner vie à la notion d'arabité, à la notion de culture arabe et la faire revivre, la sortir de son marasme actuel, mais aussi de dire aussi aux occidentaux que l'arabe a été et peut être un moyen de dialogue des cultures et une langue aussi de science et porteuse de culture.
Ouais. C'est ça le... Je commençais l'émission en direct de ce Festival du Monde Arabe en citant l'article de Serge Thériault qui disait que c'était courageux de faire le Festival du Monde Arabe en ce moment, et je suis assez d'accord avec lui. Courageux dans le sens où le monde arabe est souvent stigmatisé, mais on n'a pas le choix d'être... Enfin, je veux dire, par la force des choses, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tous les conflits qui existent, le conflit irakien et américain, j'ai envie de dire, on a une vision... Je voudrais vous poser une question, en fait. On a une vision bien particulière en Occident du monde arabe. Par exemple, moi, j'ai voyagé beaucoup dans le monde arabe, et je trouvais ça frappant à chaque fois que je regardais la télé, que je regardais les informations par rapport aux informations qui passent en France et à celles qui passent au Maroc, par exemple. Les journalistes n'ont pas du tout la même façon de présenter l'actualité en France ou au Québec, disons. Dans le monde occidental, on va parler d'une attaque israélienne ou d'une attaque quelconque, mais quand on se trouve dans le monde arabe, les choses ne sont pas présentées du tout de la même façon. On va dire que, par exemple, les Palestiniens ou les Irakiens ont riposté avec succès, ou se sont insurgés contre telle ou telle chose. Donc il y a vraiment deux visions du monde. On a une vision occidentale ici qui est pas du tout la même. Exactement. Du tout la même.
Malheureusement, on vit ça, en fait. Ouais. Mais le moyen, en fait, de se sortir de cette vision occidentale, c'est, nous, on écoute aussi les médias arabes via les satellites. Ouais. Donc on essaie de faire la part des choses, mais c'est vrai que les médias occidentaux actuellement stigmatise uniquement les choses mauvaises qu'il y a dans la culture arabe ou dans le monde arabe. Mm-hmm. Vous verrez jamais quelqu'un qui a fait... Bon, en fait, vous m'étonnez parce que vous m'avez invité, mais disons que en général, on invite un Saïd Jaziri parce qu'il est bon, parce qu'on est polémique. On va inviter des gens qui se voilent la face parce qu'ils ont écrit un livre sur les mauvaises choses de l'islam.
Mais ça, c'est du sensationnalisme.
Exactement, exactement. Malheureusement, c'est ce qu'on voit, et même actuellement le débat sur les accommodements raisonnables, on stigmatise là-dessus aussi. On ne voit que les particularités qui sont vraiment minimes, et on oublie qu'il y a une majorité de personnes musulmanes, arabes, qui participent à l'édification de ce pays, qui sont positives, qui créent des choses. Il y en a énormément, mais on ne leur donne pas la parole. Et pour cela, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Enfin, ça nous fait plaisir. Frédéric Laure a travaillé aussi beaucoup sur cette émission. Puis je pense que l'idée, c'était justement... Je pense qu'à CIBL, on évite de faire ça, du sensationnalisme, et puis que c'est facile d'inviter des Saïd Jaziri ou des gens voilés, ou une femme voilée tout en noir qui va arriver, puis on va lui demander pourquoi elle se voile. Finalement, comme vous le disiez, c'est une minorité dans la minorité, et puis ces gens-là qu'on voit le plus, mais il y a tellement d'autres choses à dire.
À ce propos, j'aimerais vous comptez une de mes expériences, en fait. Au début des accommodements raisonnables, vers le mois de février, j'ai écrit un article que j'ai soumis à la presse. Et cet article vantait un peu les mérites un peu de la communauté immigrante, en disant que les gens qui font des mauvais coups, en fait, ou qui font parler d'eux, sont une minorité. Et l'article n'a pas passé. Pourtant, j'ai passé plusieurs heures à l'écrire. Oui. Et ils m'ont dit non, on n'a pas de place pour ce genre d'article. Alors, ce que j'ai fait, j'ai inventé un nom. Et je me suis appelé la menteuse, en fait, en arabe. Et j'ai écrit un article en 5 minutes, disant que j'étais une femme qui avait subi les foudres de l'islamisme dans son pays. Je suis venu au Québec. Puis ici, au Québec, on ne devrait pas donner la parole aux immigrants, que Hérouville et tout ce qui est hérouvillien est bon, etc. Et l'article a été publié en l'espace de, je dirais, 3/4 d'heure, il a été accepté. Alors, et c'est la même personne, c'est moi qui écris les deux articles. Alors, l'article dans lequel je valorisais un peu l'apport des immigrants n'a pas été publié. Et alors que l'autre, qui était sensationnaliste, qui parlait d'une femme qui a quitté son pays, etc., dont il a passé... Ce que j'aimerais... En fait, j'aimerais mettre l'accent là-dessus, c'est que quand on écrit des choses qui sont contre les Arabes, contre les musulmans, ça passe très bien. Oui. Et si vous voulez faire de l'argent, je vous conseille une chose. Écrivez faites-vous passer pour une musulmane qui a été battue, qui a été violentée chez elle, et écrivez votre histoire. Vous allez voir, vous allez gagner beaucoup d'argent.
Oui. On va faire une petite pause musicale, Monsieur Ben Saada.
Merci. Hein?
c'était M, Mathieu Chédid, d'origine égyptienne, lui. Voilà, je suis toujours en compagnie de M. Ahmed Ben Saada, docteur en physique de l'Université de Montréal, et nous parlons de notions d'arabité, de tolérance, et puis de l'importance de faire connaître la culture arabe et non pas de systématiquement la stigmatiser par des faits un peu spectaculaires. Hein. On a parlé récemment de l'imam Jaziri, des femmes voiles et tout ça. Oui, ça existe, bien sûr que ça existe, mais la majorité du monde arabe, quand on a un petit peu de bon sens, c'est quand même autre chose. Hein. C'est quand même autre chose, un monde de culture, de tolérance et d'ouverture d'esprit.
Exactement, oui.
Y a-t-il un ou des mondes arabes, à votre avis? Moi, j'ai ma petite idée sur la question. Moi, je dirais il y a des mondes arabes. Parce qu'il y a des arabes chrétiens, il y a des arabes orthodoxes, il y a des arabes musulmans, et puis il y a le Maghreb, il y a plein de parties du monde où on parle arabe, où on a cette culture arabe. Florence va nous en parler tout à l'heure. Comment vous voyez ça, vous, monsieur Ben Saada?
C'est vrai qu'on fait toujours l'amalgame, je l'ai noté aussi dans un de mes articles, on fait toujours l'amalgame arabe et musulman. En fait, mm-hmm. c'est deux notions complètement différentes. Il y a des arabes qui sont musulmans, il y a des arabes qui ne sont pas musulmans, puis il y a des musulmans qui sont arabes et des musulmans qui ne sont pas. Donc on a un petit peu de tout. Mais c'est vrai que le monde arabe, en Occident, ça paraît tous les musulmans. En fait, il y a comme une on peut carrément remplacer le mot arabe par le mot musulman dans les médias, dans la façon dont les Occidentaux voient le problème, disons, arabo. C'est toujours arabo-musulman, en fait. Oui. Mais en fait, le problème peut être aussi juste arabe ou juste musulman, mm-hmm. en fait. Dans l'article que vous avez cité l'autre fois, je m'intéressais beaucoup plus au monde arabe, mm-hmm. parce que le monde arabe a quand même est quand même structuré, même si les structures, ils ont ce qu'on appelle la Ligue des pays arabes, par exemple, ils se réunissent, etc. Mais même une organisation politique comme ça ne réussit pas à avoir une unité. Il y a une très grande différence, par exemple, entre un Algérien, par exemple, et un Saoudien, mm-hmm. okay, de par sa culture, et aussi à cause de la partition des pays arabes due au colonialisme, par exemple. Alors, la langue est différente, la langue dialectale est différente. Et alors, pour se parler, il faut écrire une langue qui, en fait, qui n'est pas parlée, mais qui est juste écrite. Mm-hmm. Alors, ça fait... aussi l'éloignement géographique fait aussi que il y a des différences, mais la Ligue arabe ne joue pas son rôle d'unité, de faire voyager, par exemple en Occident vous avez souvent des jeunes qui voyagent d'un pays à l'autre, qui commencent leurs études dans un pays, qui vont dans l'autre, ça n'existe pas, mm-hmm. et c'est ça qu'il faudrait comme encourager et valoriser, oui. De faire des projets communs, parce que le monde arabe a des problèmes communs, donc il faudrait y répondre de manière commune. Mm-hmm. Okay? Et en ce sens-là, moi je m'intéresse beaucoup plus au monde arabe pur. Mais le monde arabe comprend aussi des chrétiens, et la notion d'arabité chez certains chrétiens disparaît aussi. Elle disparaît par la disparition du nom, par exemple. Alors vous avez des quand j'étais jeune, il y avait des chanteuses que donc j'ai appris après qu'elles étaient chrétiennes, mais pour moi elles étaient arabes parce qu'elles chantaient en arabe. Oui. Pourquoi? Parce qu'avec leur nom, on ne pouvait pas savoir si elles étaient arabes ou pas.
Okay.
Excusez, moi-même je fais le lapsus. Ouais, si elles étaient chrétiennes ou musulmanes. Oui, okay? Oui. Et alors que maintenant, vous avez des noms comme Carole Samaha, comme Nancy Ajram. Alors Nancy, là on sait qu'elle est arabe, mais on sait aussi qu'elle est chrétienne. Et c'est de ça que je m'insurgeais un peu, que la notion d'arabité, on ne doit pas avoir honte de notre arabité. Ouais. Et c'est pas parce qu'on s'appelle Nancy ou qu'on s'appelle Carole qu'on est meilleur que l'autre qui va s'appeler qui va s'appeler un nom plus sabah, par exemple, une grande chanteuse, mm-hmm. Une grande chanteuse chrétienne qui s'appelait Sabah, qui est un nom arabe, mm-hmm. tout court, qui n'a pas de connotation religieuse, si vous voulez.
Moi, je me souviens avoir voyagé en Israël, et j'étais à Nazareth, et j'avais été invitée à manger avec des arabes chrétiens. C'est des gens que j'ai découverts. C'était, je savais qu'il y avait une population chrétienne arabe qui existait, mais j'avais jamais eu l'occasion de fréquenter ces gens-là. Et puis c'était des gens très religieux en plus. Ouais. Il y avait des images du Christ, des icônes un petit peu partout dans la maison. Et c'était
mais
formidable.
Même ici à Montréal, vous avez des communautés arabes chrétiennes qui sont extrêmement religieuses. J'enseigne, donc j'ai même des élèves qui sont vraiment religieux et qui sont arabes, qui me parlent en arabe, mais qui n'ont pas la même religion que moi. Et je trouve ça vraiment très enrichissant, même pour moi, parce que j'apprends des choses et je leur apprends des choses sur les deux religions. Et c'est pas parce qu'on a une religion différente qu'on n'est pas arabe. Au contraire, là, le principe, le concept d'arabité, il est antécédent au principe de religion. Oui. On a été arabe avant d'être chrétien ou avant d'être musulman. C'est ça, en fait.
Vous citez, j'ai envie de vous citer aussi dans votre article, vous dites « Cette conception de l'arabité comme synonyme de décadence et de médiocrité n'est pas un phénomène récent. Il n'y a qu'à se rappeler les réformes occidentalisantes de Mustafa Kemal Atatürk qui remplaça l'alphabet arabe par l'alphabet latin. Ouais, » Lui, il a instauré une société laïque en Turquie.
Lorsque l'Empire ottoman, après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'est fragmenté. La naissance de la Turquie nouvelle qu'on connaît maintenant, avec la venue de Kemal Atatürk, la première des choses qu'il a voulu faire, c'est de faire rentrer en fait la Turquie moderne dans l'Europe. Et pour cela,
c'est toujours la volonté
de la Turquie. Et c'est ça que je disais dans mon article aussi, c'est que Kemal Atatürk ne doit pas être content actuellement, parce que jusqu'à date, son entrée en Occident ou dans la communauté européenne est encore très problématique. Ouais. Et en fait, elle est problématique. Pas parce qu'elle ne fait pas partie géographiquement, disons, de l'Europe, c'est parce qu'elle est musulmane, en fait, et qu'on se leurre pas. Moi, je suis pas un politicien, donc j'essaie de dire la vérité, mais les politiciens peuvent jouer aussi sur les mots. Mais le principal handicap de la Turquie actuellement, c'est pour sa rentrée finalement dans la communauté européenne, c'est qu'elle est musulmane.
C'est qu'elle est musulmane et puis c'est qu'elle ne reconnaît, enfin le gouvernement ne reconnaît pas le génocide arménien non plus. Ça, c'est une grosse épine dans le pied.
C'est un autre argument. Oui.
C'est un autre argument qui est important. Je sais qu'à chaque fois ça revient sur la table.
Oui, j'écoutais ce matin justement Charles Aznavour sur TV5. Ouais. Puis il avait sorti, lui il disait qu'il était d'accord justement pour que la Turquie, il voyait pas d'inconvénient à ce que la Turquie fasse partie de l'Europe, mais à condition qu'elle reconnaisse, parce que lui-même était est un Arménien.
Oui. J'ai envie de vous poser la question qui brûle les lèvres au sujet des accommodements raisonnables. Oui. Moi, j'ai suivi un petit peu le débat avec intérêt. En tant que Française vivant à Montréal, j'ai le sentiment, d'une manière générale, sans être une spécialiste, j'y vois comme un problème identitaire québécois plutôt qu'autre chose. Tout ça, c'est sur la table, c'est bien. On en discute, c'est important d'en parler. Le danger, c'est que ça fait remonter quand même des vieux sentiments xénophobes. Hein. J'ai pas peur des mots quand on entend les gens d'Hérouville qui un village dans lequel il n'y a absolument pas d'immigrés, il n'y a pas de problème, et puis qui font passer des décrets municipaux. Bon.
En fait, ce qui est dérangeant dans l'histoire des accommodements, c'est qu'on donne la parole à beaucoup de personnes, ce qui est pas mal en soi, en fait, c'est pas mauvais, mais on dit tout et n'importe quoi sans trop se gêner des fois d'être vraiment xénophobe. Et autre chose aussi, c'est ça me fait rappeler un peu le débat qu'il y a eu sur le voile islamique en France. Ouais. Au départ c'était un débat sur les signes ostentatoires, mais enfin c'est devenu un problème sur le voile islamique. En fait, actuellement on l'appelle la loi sur le voile islamique. On voit aussi dans les débats entourant la commission sur les accommodements raisonnables aussi, il y a une stigmatisation sur les musulmanes en général, sur l'égalité de la femme et de l'homme et tout ça. Et autre chose qui dérange, c'est que ce soit les Pauline Marois ou le premier ministre actuel du Québec, ils se gênent pas de promulguer des lois ou d'essayer de faire passer des lois sans attendre que la commission ait fini ses travaux, en fait. Donc on voit qu'il y a quand même un jeu très politique disons politicien qui cherche à récupérer, en fait c'est un travail de récupération. Normalement on devrait attendre la fin de la commission et essayer de tirer des conclusions et proposer des lois. Je lisais récemment dans un journal montréalais que les femmes voilées n'allaient plus avoir le droit de vote. En fait, la comparaison que je peux faire, vous savez, dans tous les pays du monde il y a des intersections, ok, on met pas de feu tricolore. On n'en met pas. On attend qu'il y ait quelques personnes qui meurent. Je pense que le chiffre, c'est combien. Et à ce moment-là, quand il y a quelque chose... Quand il y a des personnes qui meurent, à ce moment-là, on met des feux tricolores. On juge que cette intersection est dangereuse. Mm-hmm. Dans ce cas-là, on met des feux tricolores sans qu'il y ait personne qui ait passé. Il n'y a pas eu, à que je sache, une femme voilée qui est allée voter. D'ailleurs, même dans les pays musulmans, les femmes voilées n'ont pas le droit de voter. Oui. Il faut qu'elles se découvrent. Mm-hmm. Okay? Le problème, ce n'est pas posé, on fait une loi. Mmh. Je trouve ça assez bizarre quand même. Ouais. Mmh. Ouais.
Merci de m'avoir répondu très franchement.
Hein? Il n'y a pas de quoi.
Florence Rinson, oui. Qui est là pour faire quelques chroniques sur la Médina, sur le Festival du Monde Arabe. On parlait tout à l'heure des mondes arabes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Ben voilà, j'ai fait une petite recherche parce qu'en effet, le monde arabe, c'est vaste. Et puis, qu'est-ce que ça représente? J'ai trouvé que quand même, ben, il faut compter 21 pays du monde arabe. Ben, on peut les classer dans 4 régions du monde. Le Proche-Orient, qui comprend la Syrie, le Liban, la Jordanie et l'Irak. La péninsule, avec le Koweït, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Oman, le Yémen nord et le Yémen sud. Alors, on a l'Égypte et les États africains, avec le Soudan, la Somalie et Djibouti. Et enfin le Maghreb qui réunit la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Donc c'est vrai que c'est assez vaste, ça représente 21 pays comme je le disais tout à l'heure. Et je voulais savoir aussi combien de ces personnes se retrouvaient au Québec. Donc j'ai trouvé des chiffres qui sont pas tout à fait récents, qui remontent à 2001 lors du dernier recensement. Les prochains chiffres ne seront disponibles qu'en décembre prochain. Donc il y a 135 750 personnes d'origine arabe au Québec. Alors selon Claude Fradette, qui est porte-parole du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, au cours des 5 dernières années, on peut estimer entre 15 et 20 000 le candidat arabe qui serait arrivé au Québec. Donc, je vous le disais, les prochaines données du recensement, le dernier recensement a eu lieu en mai 2006, donc les prochaines données seront disponibles le 4 décembre prochain. Et par rapport à ces chiffres, 83% de la population d'origine arabe sont de première génération, donc qui sont nés à l'étranger. C'est quand même pas mal. Et puis, vous parliez tout à l'heure... de la religion, on a parlé de religion musulmane et de religion catholique. Donc les gens qui ont participé au recensement, parce qu'évidemment tout le monde ne répond pas lors de recensement, apparemment aussi les nouveaux arrivants sont plutôt craintifs à répondre à ces questionnaires du recensement, mais ceux qui l'ont fait, donc les 135 750, sur ces personnes qui ont répondu, 46%, donc presque la moitié de la population arabe du Québec, se déclare de religion musulmane. Et 30% environ de religion catholique. C'est important de souligner. Il y a 10% de confession orthodoxe chrétienne. Puis ce sont des chiffres qui ne sont pas du tout les mêmes que les Arabes vivant dans le monde arabe. Là, j'ai trouvé un chiffre dans un livre qui s'appelle « La politique dans le monde arabe » qui a été écrit sous la direction d'Elisabeth Picard et qui a été publié en 2006, donc assez récent, aux éditions Armand Collin. 97% de la population arabe de ces pays, donc du monde arabe, se déclare musulman. Parmi ces 90%, il y a 10% qui sont chiites et les autres sont du rite sunnite. Voilà, alors je ne sais pas si ce sont des chiffres que vous pouvez corroborer, si vous en savez plus sur le sujet. Ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé.
D'accord.
Voilà, après mes petites recherches.
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Dans le cadre de sa 8e édition, le Festival du Monde Arabe de Montréal présente au Théâtre Corona. Vendredi le 26 octobre, Checkpoint 303, partenaire de scène de Massive Attack et Club Den. Dimanche le 28, Déluge, avec Mercant Dédé, Smadge et Mounir Troudi. Un voyage fascinant sur la route des sons. Et vendredi le 2 novembre, Chic City Bémol, avec ses chansons émouvantes d'un humour convivial et corrosif, un bémol au choc des cultures. Réservation 514-790-1245. Information www.festivalarabe.com.
As-tu l'oreille à la culture? Ne manque pas du lundi au vendredi, dès 16h, le 4 à 6. Le retour culturel avec Louis-René Baudin et Arnaud Aubin. CKL 101,5, Radio Montréal. As-tu l'oreille?
Radio Temple, 8, 9, 10, 11 novembre. Dans le cadre de sa 8e édition, le Festival du monde arabe de Montréal présente au Théâtre Corona. Vendredi le 26 octobre, Checkpoint 303, partenaire de scène de Massive Attack et Club Den. Dimanche le 28, Déluge, avec Mercant Dédé, Smadj et Mounir Troudi. Un voyage fascinant sur la route des sons. Et vendredi le 2 novembre, Chic Sidi Bémol, avec ses chansons émouvantes d'un humour convivial et corrosif. Bémol au choc des cultures. Réservation 514-790-1245. Information www.festivalarabe.com.
De retour en ondes sur CIBL Radio Montréal 101,5. Je tiens à remercier M. Ahmed Ben Saada d'être venu discuter avec nous à l'occasion du Festival du Monde Arabe et puis de parler de la notion d'arabité, de politique, de religion. Vous avez été un invité très intéressant, M. Ben Saada. Je tiens à vous remercier.
Merci beaucoup, madame. Et puis continuez à inviter du monde rassembleur et non pas diviseur.
Mais je pense que c'est notre volonté ici. Et puis le Festival du Monde Arabe a aussi cette volonté, cette politique-là, j'ai envie de dire, de faire découvrir aux Montréalais les beautés de cette culture.
Merci beaucoup, madame.
Merci, à bientôt.
Merci.
De l'aide médicale pour la Palestine.